Bonjour à vous, amis des fées qui choisissez de nous écouter. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois en Cornouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. Aujourd'hui, nous avons des invités un peu particuliers, à la fois espiègles et redoutables, j'ai nommé les Korrigans, ces lutins qu'on ne trouve qu'en Bretagne. D'accord, du calme s'il vous plaît. Puis, comme chaque semaine, je tenterai, dans une seconde partie, de relever le défi d'improviser une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a envoyés sur la page Facebook de notre association. À la différence des teuses, que nous verrons dans l'émission de la semaine prochaine et qui sont des lutins domestiques, les Korrigans sont noirs de peau, avec des yeux rouges. Ils vivent dans la nature, sous la terre, et toujours en tribu, sous l'autorité d'un roi. Selon René-François Lemaine, dans un article de la revue Celtique en 1875, les traditions les plus populaires de la Bretagne sont celles qui se rapportent aux Korrigans, que lui appelait les nains. Elles sont répandues dans toutes les communes où l'on parle le breton, mais ces êtres mystérieux y sont désignés sous des noms différents suivant les localités. Dans le département du Finistère, on les nomme généralement Korriquettes, pluriel de Korrig, diminutif de Cor. Et sur la limite sud du département, ils sont appelés Korniganèdes ou même Torriganèdes. Dans une partie des montagnes noires, surtout à l'est de la ville de Châteauneuf-du-Fou, on les appelle Corandoun ou Corandon, ce qui signifie nain des lieux profonds. On les désigne encore sous le nom de Boudiqued dans une partie des Monts d'Arrée. Il existe d'ailleurs tout près du bourg de Brénilis, en la commune de La Feuillée, une belle allée couverte que l'on nomme dans le pays Ti Ar Boudiqued ou Maison des Nains. Toujours selon M. Lemaine, les Korrigans forment en quelque sorte la transition entre l'homme et les êtres surnaturels. Comme lui, ils naissent et meurent sur la terre où ils vivent en société sous l'autorité d'un chef de tribu. Toutes les tribus des Korrigans sont sous l'autorité d'un roi, dont le palais souterrain, creusé dans la roche, se trouve à 13 Malawen, en bordure de la baie de Douarnenez entre Plonévesporzay et Kerlaz. Ils sont conformés comme les hommes, dont ils ne sont cependant que la caricature. En effet, sur un corps noir très petit et mal fait, ils portent une tête énorme et hideuse, mais ils sont doués d'une force sans limite. Leurs demeures sont placées le plus souvent sous les dolmens, que l'on nomme presque partout en Basse-Bretagne Ti Korriqued, ou Maison des Nains, ou Loch Korriganed, Loge des Naines. Ce sont des demeures qu'ils balayent toutes les nuits avec le plus grand soin. D'autres ont leurs habitations dans les cavernes naturelles, sous les menhirs et sous les larges pierres plates que l'on rencontre fréquemment dans les landes isolées. Ils y vivent dans la terre comme les lapins dans leur terrier. On ne les voit ordinairement que le soir, sur la lisière des bois sombres, au milieu des bruyères désertes ou au sommet de rochers élevés. Ils redoutent le froid et ne sortent guère de leur demeure souterraine pendant l'hiver. Quoique la plupart des Korrigans se tiennent pendant le jour à distance des lieux habités, il en est un bon nombre qui ont des rapports directs avec certaines personnes dont ils réclament au besoin les services, et dans ces circonstances, ils leur adressent toujours la parole en vers, ou plutôt en bourrimé. Plusieurs d'entre eux, même abandonnant ceux de leur race, viennent s'établir au milieu des hommes dont ils adoptent plus ou moins imparfaitement les mœurs. Voilà par quels côtés imparfaits les Korrigans se rapprochent de l'humanité. Ils s'en éloignent par des facultés qu'ils tiennent d'un pouvoir occulte et qui sont une sorte de compensation à leur infériorité physique. Ainsi, ils ont le pouvoir de se rendre invisibles et ils comprennent le langage des oiseaux. Païens et sorciers eux-mêmes, ils sont constamment en rapport avec les sorcières de race humaine et c'est d'ailleurs par leur intermédiaire que ces dernières possèdent l'art des enchantements et de la divination. Les Korrigans ont parfaitement conscience de la supériorité physique des hommes sur eux. Ils en ressentent une jalousie extrême qui se traduit par des vexations de toutes sortes, qu'ils font éprouver à ceux que le hasard fait tomber entre leurs mains ou qui ont le malheur d'exciter leur rancune. L'homme qui veut se venger d'un ennemi peut se rendre le soir près de la demeure d'une famille de Korrigans et là, exposer à voix haute ses griefs. Les Korrigans s'empresseront de répondre à son appel et la personne dénoncée ne tardera pas à ressentir les effets de ce pacte. Une seule chose les effraie et les met en fuite, sans qu'on puisse en expliquer la cause. C'est la petite fourche de bois dont les cultivateurs se servent pour nettoyer le soc de leur charrue du fumier et de la terre qui s'y attachent, et que l'on nomme casse-prenne en Cornouailles. Les Korrigans joignent à leur malice et à leurs actes de cruauté un raffinement de sarcasme et d'ironie qui dénote la joie qu'ils éprouvent à tourmenter les hommes. S'ils sont assez heureux pour attirer dans leurs rondes infernales un voyageur imprudent, ils lui laisseront un moyen de s'en sortir. Mais comme ce moyen est une énigme à deviner, il arrivera que leur victime succombe presque toujours. On les verra parfois la nuit labourer un champ avec tant de soin qu'il semble qu'après le travail, il n'y ait plus qu'à y semer le grain. Mais le lendemain, toute trace de culture aura disparu. S'il leur arrive dans un moment de bonne humeur de rendre un service à un honnête homme, ce service ne sera jamais complet. La griffe du diable y apparaîtra presque toujours. Toutefois, ils sont très accessibles à la vanité et l'on peut, en les flattant, en tirer quelques services. Il suffit par exemple de se rendre près de leur tanière et d'implorer humblement de leur bienveillance, soit une charrue, soit une paire de bœufs, ou toute autre chose dont on peut avoir besoin, pour qu'ils s'empressent de mettre ce qu'ils possèdent à la disposition de la personne qui a recours à eux. On est sûr de trouver le lendemain matin à sa porte l'objet demandé. Mais il faudra leur rendre avant le coucher du soleil, sinon on s'expose au plus grand malheur. Une de leurs habitudes est d'enlever les enfants dans leur berceau et de mettre à leur place leurs affreux rejetons, dans l'espoir d'améliorer leur race et de faire dégénérer celle des hommes peut-être. Le pouvoir qu'ils ont de se rendre invisibles leur permet de vivre sans travail, car ils pénètrent partout, dans les foires, dans les maisons, et prennent tout ce qui est à leur convenance. Aussi se nourrissent-ils comme des rois et sont-ils vêtus comme des princes. À la fin du XIXe siècle, si la plupart des Bretons étaient convaincus que cette race avait existé, la masse de la nation avait émigré depuis bien des années déjà, pour une contrée aussi inconnue que celle dont ils sont originaires. On verra si après, dans les récits destinés à développer quelques-uns des faits mentionnés dans ce préambule, de quelle manière on les obligea à quitter le pays. Une Korrigane, se trouvant sur le point de donner le jour à un enfant, fit chercher une vieille sage-femme de sa connaissance à la ville la plus voisine de sa demeure. Après la naissance de l'enfant, et lorsque la sage-femme l'eut emmaillotée à la manière ordinaire puis se fut assise au coin du foyer pour se chauffer, la mère lui dit aussitôt qu'elle put recouvrer la parole. « Cherchez-la, ma commère, au coin de l'armoire, et vous y trouverez une pierre ronde. Frottez-en les yeux de mon enfant. » « Que signifie ceci ? » se dit la sage-femme. « Cette pierre aurait-elle donc quelque propriété merveilleuse ?» Elle l'appliqua sur les yeux de l'enfant et, pour s'assurer si elle possédait quelque vertu, elle s'en frotta aussi l'œil droit. Elle ignorait que cette pierre précieuse, qui était parfaitement polie et dont la forme était celle d'un œuf, avait la propriété de donner aux personnes dont elle avait touché les yeux la faculté de voir les Korrigans lorsqu'ils se rendaient invisibles. À quelque temps de là, il advint que la sage-femme fut à une grande foire qui se tenait dans un bourg voisin. Quelle ne fut pas sa surprise, en y arrivant, d'apercevoir sa commère, la Korrigane, furetant dans les boutiques les plus richement garnies et prenant parmi les marchandises celles qui lui plaisaient le plus sans que les marchands parussent en être surpris. Le soir, en s'en retournant chez elle, la sage-femme rencontra en chemin la petite créature, portant un lourd panier rempli d'étoffes de la plus grande richesse. « Ah, commère !» lui dit-elle en l'abordant. « Vous avez fait aujourd'hui une rude brèche aux étalages et aux boutiques d'étoffes, et pourtant, elles ne vous ont pas coûté bien cher. »« Oh oh !» lui répondit la Korrigane. « Vous m'avez donc vu ? Et de quel œil me voyez-vous maintenant ?»« De l'œil droit !» lui dit la sage-femme. C'était celui qui avait été en contact avec la pierre mystérieuse. Aussitôt, la Korrigane enfonce un de ses doigts dans l'œil de la malheureuse commère et l'arrache de son orbite en lui disant avec un ricanement diabolique « Vous ne me verrez plus à présent !» Charmant, n'est-ce pas, ces petits êtres? En plus, comme je vous l'ai dit, ils n'hésitaient pas à voler les enfants. On commence ordinairement d'ailleurs cet autre récit par un conseil qui s'adresse aux mères. Il n'est pas bon de laisser les enfants seuls à la maison pour aller voir les feux de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre. Une femme, qui avait les deux plus beaux petits garçons du monde, commit un jour l'imprudence d'aller voir le feu de la Saint-Jean, abandonnant ses bébés seuls dans leur berceau. À son retour, elle remarqua avec effroi qu'un grand changement s'était opéré en eux pendant son absence. À la place des deux charmants enfants qu'elle avait quittés un instant auparavant, elle trouva deux petits êtres difformes, à la figure vieillotte et renfrognée. Elle attendit quelque temps sans se plaindre, mais voyant que les mois se succédaient et que plus d'une année s'était écoulée sans que ses enfants ne grandissent et ne prononcent une parole, elle s'en fut toute désolée raconter ses peines à l'une de ses voisines. Cette voisine était une femme de bon conseil et qui avait vu bien des choses depuis qu'elle était dans le monde. « Pauvre commère, lui dit-elle, quand elle eut fini de connaître la cause de ses chagrins, vos enfants ont été volés par quelques korrigans. » « Que faire alors pour qu'il me soit rendu ?» reprit la mère. « Retournez vite chez vous, et dès que vous serez arrivés, ayez l'air de vous plaindre de ne pas avoir le temps de préparer à dîner pour les 12 hommes qui font les travaux des champs dans votre village. Pendant ce temps, nous irons, moi et 2 ou 3 de mes amis, vous porter du lait, et nous vous demanderons si votre dîner n'est pas encore préparé. Vous prendrez alors une coquille d'œuf et vous y mettrez de la pâte en disant à haute voix après l'avoir mise sur le feu, « Il faut que je me hâte, car je suis en retard. » Quand votre bouillie sera cuite, faites mine de vous rendre à la garenne où travaillent les hommes, en ayant soin de fermer derrière vous la porte de votre maison. Mais gardez-vous de vous éloigner, demeurez sur le seuil et écoutez avec la plus grande attention ce que diront les enfants. La mère se conforma aux recommandations de sa voisine, et voici ce qu'elle entendit lorsqu'elle fut sortie de sa maison.
Nous avons vu semer les chênes du bois de la salle, danser à minuit au lieu où elle est en brésal. Mais dans notre vie, nous n'avons jamais vu pareille chose. Une coquille d'œuf qui sert de bol.
Ah, vous parlez maintenant, dit la mère en rentrant aussitôt. Je vous reconnais, maudit korrigan, à votre voix cassée. Puis, prenant une branche de genêt vert, elle les fouetta de toutes ses forces, jusqu'à ce que la maman korrigan accourt à leur cri et lui rende ses enfants en lui disant « Tiens, ogresse, je n'en ai pas fait autant au tien ». D'autres contes mentionnent qu'un des grands divertissements des korrigans est de danser la nuit au clair de lune autour d'un grand feu. C'est dans les landes désertes qu'on les voit se livrer avec une sorte de frénésie à cet exercice, en chantant les premières paroles d'un couplet qu'ils n'achèvent jamais eux-mêmes. Il semble du reste qu'il y ait dans ces paroles plus de rimes que de raisons, car elles consistent uniquement dans l'énumération des premiers jours de la semaine. Si pendant qu'ils dansent ainsi, un passant attardé a la mauvaise fortune de traverser la lande où ils font leurs ébats, il l'appelle par son nom. Et s'il a l'imprudence de répondre, il est entraîné dans le tourbillon de leur ronde jusqu'à ce qu'épuisé de fatigue, il tombe mort sur le sol. Il a cependant 3 moyens de se soustraire au sort qui lui est réservé. Le premier est d'achever le couplet que chantent les nains en y ajoutant 1 ou 2 vers. Cette tradition est répandue dans toute la Cornouaille. Ils ne sont pas exigeants pour la rime, de simples assonances suffisent à les mettre en gaieté. Le second consiste à placer ses sabots en entrant dans la ronde, de telle façon qu'après le premier tour de la danse, il puisse y mettre à 2 fois les 2 pieds. S'il ne réussit pas au premier tour, ce moyen lui échappe et il ne peut plus recommencer. Le troisième est de planter un bâton en terre à l'endroit où il commence à danser et de le saisir de la main en finissant le premier tour. Les histoires que l'on raconte des rencontres de voyageurs avec les korrigans ne sont pas très variées. En voici quelques-unes qui donneront une idée des autres. Un habitant de la commune de l'hôpital Canfrou s'en revenait un soir du bourg, portant sur la tête une grande tourte de pain de seigle, lorsqu'en traversant une lande, il fut arrêté par les korrigans qui l'obligèrent à danser et à chanter. Il suivait, haletant, les mouvements de la danse, portant toujours sur la tête sa tourte pesante. On le fit danser si longtemps et faire tant de bonds désordonnés que la tête du pauvre patient finit par passer à travers le pain, qui lui tomba comme un collier sur les épaules. On s'imagine bien quelle piteuse mine il devait faire dans cet état. Les korrigans le firent tourner encore pendant quelque temps en riant aux éclats et finirent par le chasser hors de leur cercle en le poursuivant de leur huée. Cette aventure avait mis les petites créatures en trop joyeuse humeur pour qu'elles ne cherchassent pas l'occasion de la renouveler. Ayant réussi peu après à attirer dans leur danse un autre homme qui portait aussi sur la tête une tourte de pain de seigle, elles s'imaginèrent qu'elles en auraient aussi bon marché que leur première victime. Elles se trompaient, car à peine étaient-elles arrivées au 4e vers de leur chanson que le nouveau venu termina leur poésie à leur place. Les Korrigans virent alors qu'ils avaient affaire à un homme d'esprit, et ils le congédièrent sans lui faire de mal. Ce récit était connu dans les communes d'Anvec, de Saint-Éloi et d'Argol. Une autre histoire bien plus populaire que la précédente est celle de ce vieux musicien bossu qui, surpris la nuit par les Korrigans et forcé de danser avec eux, compléta aussi leur chanson. Les Korrigans, émerveillés de son talent de rimeur, prièrent leur chef de lui enlever sa bosse, ce qui fut fait. La semaine suivante, son frère jumeau, qui lui était tailleur et avare comme Harpagon, se rendit au même endroit pour profiter de la même aubaine. Mal lui en apprit, car il était du côté de l'esprit, bien moins doué que son frère. Longtemps il dansa, longtemps il chanta, sans pouvoir trouver une rime pour terminer la chanson. Les Korrigans le punirent de sa sottise, en l'affublant de la bosse qu'ils avaient enlevée aux musiciens la semaine précédente. À une époque, le nombre des Korrigans augmentant de jour en jour et avec eux leurs vols et leurs rapines, la Cornouaille était entièrement ruinée et ses habitants plongés dans la consternation. Les Bretons s'adressèrent alors à leur évêque pour le prier de délivrer le pays de ce fléau. Ce dernier y parvint de la manière suivante. Plusieurs personnes avaient remarqué à la messe que pendant la lecture de l'évangile, les Korrigans perdaient une grande partie de leur force et semblaient s'affaisser sous l'action d'une puissance supérieure. On fit part de cette observation à l'évêque, qui ordonna aux prêtres de toutes les paroisses de Cornouailles de faire lire une seconde fois l'évangile à la fin de la messe. Les Korrigans ne purent résister à cette épreuve. Plusieurs d'entre eux y succombèrent, mais la masse de leur nation abandonna le pays et n'y reparut jamais. C'est depuis cette époque que s'est établie la coutume de lire l'évangile à la fin de la messe. Au fait, mais d'où viennent-ils ces Korrigans? Les Kors, avec un K, ou Kors avec un C, étaient à l'origine des êtres non humains dotés de pouvoirs magiques qui provenaient sans doute des Kornites, mentionnés dans les Mabinogions gallois, ces récits médiévaux mis par écrit au XIIe siècle et qui font référence à la mythologie celtique. Dans la légende de Lud et les Félis, qui étaient certainement les dieux Lugus et Kernunos, les Kornites étaient un peuple non humain qui avait la faculté d'entendre toutes les conversations, si secrètes soient-elles, et disposait de grands pouvoirs magiques. Ils étaient considérés comme le premier des trois fléaux qui se sont abattus sur l'île de Bretagne et ont été défaits par Lud avec l'aide de son frère Léphélis, ce dernier lui ayant donné la recette d'une potion pour les vaincre et les bannir sous terre. En bref, les Korrigans auraient donc été les avatars d'un peuple de non-humains avec des pouvoirs magiques, mentionnés dans les grandes sagas de la mythologie celtique. Voilà qui termine la première partie de notre émission. Nous allons faire une petite parenthèse musicale avec le titre Huron Beltan Fire Dance de la chanteuse Lorina McKennitt. Thank you. Merci d'être resté avec nous. Il va s'agir maintenant pour moi de relever le défi de créer une histoire à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Joachim qui a été tiré au sort et Joachim nous a proposé comme élément un teuse, c'est-à-dire un lutin domestique, un menhir, une rivière, un bébé et une princesse. Il était une fois donc un teuse qui s'appelait Bricolet et qui n'avait pas trop le moral. Il venait en effet de se faire chasser de la maison dans laquelle il avait élu domicile depuis que ses parents lui avaient signifié qu'il était temps pour lui de vivre sa propre vie. Bricolet s'était alors trouvé une petite maison bien sympathique en surplomb de la baie de Douarnenez. C'était la maison d'une vieille dame qui avait vite compris qu'un teuse avait élu domicile chez elle quand un matin, elle avait trouvé sa maison rangée du sol au plafond sans qu'elle ait eu à lever le petit doigt. Reconnaissante des services rendus, la vieille dame lui laissait chaque soir un petit quelque chose pour le remercier. Une crêpe, un morceau de beurre ou de lard, un fruit, un gâteau, que Bricolet s'empressait de grignoter pour se remplir le ventre avant d'aller prendre un repos bien mérité dans un trou de souris qu'il s'était aménagé. Malheureusement, l'encou vint chercher la vieille dame un jour et ce fut un neveu lointain qui hérita de la maison. La femme de ce dernier était méchante et ne pensait qu'à l'argent. Lorsqu'elle comprit qu'un teuse partageait la maison, et en dépit des services qu'il rendait, elle décida de s'en débarrasser. Elle chauffa donc la pierre sur laquelle Bricolet avait l'habitude de s'asseoir près de la cheminée pour grignoter ce qu'on lui laissait, puis déposa un morceau de gâteau rassis à son intention. Quand le teuse arriva et qu'il vit le morceau de gâteau, il ne se méfia pas et s'assit normalement sur sa pierre. Il se brûla alors le derrière et comprit le mauvais tour qu'on lui avait joué. Il décida de quitter la maison et erra un temps sur la lande. Un vieux menhir lui proposa de venir habiter le terrier qu'un loir avait creusé sous lui, en attendant de trouver un meilleur logis, car l'automne était déjà bien avancé et l'hiver n'allait plus tarder. Bricolet accepta, et il partit en quête de fougères pour s'aménager un petit nid douillet dans son nouveau terrier. Alors qu'il passait sur un pont enjambant une rivière, il vit en contrebas un panier d'osier ballotté au gré des flots dans lequel se trouvait un bébé humain. N'écoutant que son courage, Bricolet escalada la muraille de pierre qui servait de rambarde au pont et sauta dans l'eau froide puis ramena le panier d'osier jusque sur la rive. Ne sachant trop quoi faire avec son colis, il l'apporta au menhir pour lui demander conseil. Ce dernier lui fit remarquer la pierre précieuse que le bébé portait au cou. Il devait s'agir de l'enfant de quelqu'un d'important. Le mieux serait donc de le ramener au palais tout proche du roi de Cornouailles qui, lui, saurait sans doute rendre ce bébé à ses parents. Lorsqu'il arriva, les gardes en le voyant crurent que c'était lui qui avait pris l'enfant. Il fut donc capturé et amené au roi. Là, Bricolet apprit que le bébé était la propre petite fille du monarque qui avait disparu depuis la veille. Comme il était sommé de s'expliquer, le teuse raconta comment il avait trouvé l'enfant et risqué sa vie pour aller le récupérer. Le roi et la reine le crurent car ils savaient que les teuses, contrairement aux korrigans, étaient incapables de mentir. Une enquête fut rapidement diligentée et l'on découvrit que c'était l'intendant du château qui avait voulu se débarrasser de la princesse, pensant récupérer le palais à la mort du roi et de la reine. Il fut jugé, condamné et pendu. Puis ce fut Bricolet qui récupéra son poste et devint par ailleurs le parrain de la petite Altesse royale. Il termina ses jours heureux au palais qui, à partir de là et grâce à lui, fut l'un des plus soignés de toutes les Bretagnes. Voilà Joachim, je crois que tous vos éléments sont dans mon histoire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Cela clôt notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Il était une fois en Cornouailles », 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Kenavo, Avéchal.